Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur le début du discours de Jésus à ses disciples dans la chambre haute, au début du chapitre 14 de l'évangile de Jean, quand il les invite à la confiance et à la paix en leur disant « Que votre cœur ne se trouble pas ». L'apôtre Jean, dans son évangile, regroupe les dernières paroles de Jésus à ses disciples dans les chapitres 14 à 17, qui se terminent par la prière de Jésus à ses disciples, la prière dite sacerdotale. Et au début du chapitre 18, Jésus et ses disciples se rendent au jardin de Gethsémané, où va commencer ce que l'on appelle communément la passion de Jésus. La passion vient d'un mot latin, vous le savez, qui veut dire souffrir, et désigne donc les souffrances de Jésus lors de son arrestation, lors de son procès, lors des différents supplices qu'il va subir, dont le dernier, la mise en croix, amènera sa mort. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et c'est le début de la semaine dite sainte dans certaines liturgies, la dernière semaine du carême, la semaine où est commémorée la passion du Christ. Au début de cette semaine de la passion, il y a chronologiquement, après l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémané, il y a ensuite l'arrestation de Jésus. C'est un épisode sur lequel on ne s'arrête pas très souvent et je vous propose de le faire ensemble ce matin et de méditer donc ce texte, un des textes qui nous parle de l'arrestation de Jésus. Et j'ai choisi de l'aborder dans l'évangile de Jean, bien que tous les évangiles en parlent, j'ai choisi celui-ci. Alors pourquoi l'évangile de Jean ? À cause de son accent particulier. Chaque évangile présente les choses dans une orientation particulière et l'évangile de Jean choisit de nous montrer la souveraineté de Jésus sur tous les événements qui se produisent et en particulier sur son arrestation. Si tous les évangiles font allusion, pour Jean, font allusion à la souveraineté de Jésus d'une manière ou d'une autre. Pour Jean, c'est vraiment son axe majeur, comme nous allons le constater. Tous les évangiles, donc, abordent l'arrestation de Jésus, et dans chaque évangile, il y a des détails qu'on ne trouve pas dans les trois autres. Nous en relèverons quelques-uns au fur et à mesure, en plus de ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Je vous invite à lire, donc, si ça veut bien s'afficher, et ça ne veut pas, voilà. On commence au début du chapitre 18, le verset, au chapitre 18, verset 1, jusqu'au verset 11. Jean 18, verset 1 à 11. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes, envoyé par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils répondirent, et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ? Voilà, nous arrêtons là pour la lecture. Jésus et ses disciples se rendent donc à Gethsémané. Notons que Jean ne parle pas du combat qui vient d'avoir lieu dans ce même jardin, j'entends par là le combat dans la prière. Un combat dans la prière qui est relaté par les trois autres évangiles, mais pas par Jean. Jean qui passe directement à l'arrestation. Une arrestation qui est rendue possible par la trahison de Judas, trahison pour 30 pièces d'argent. Jésus est trahi par Judas, c'est notre deuxième point. Et au début de notre texte, Jean commence par préciser qu'après les paroles des chapitres précédents, Jésus et ses disciples sont sortis. Ils sortent. D'où ? Soit de la chambre haute, soit de la ville. Les deux lectures sont possibles. Le petit jardin se trouve de l'autre côté du ravin profond du Cédron, qui lui se trouve en dehors des limites de la ville, à l'est. Il faut donc sortir de la ville. Le Cédron, c'est une petite rivière, enfin c'est un cadreau, c'est comme chez nous un cadreau, c'est-à-dire une petite rivière qui ne se remplit que quand il y a de fortes pluies. En Israël, ce sont les fortes pluies hivernales, ce qui veut dire qu'à ce moment, lors de la fête de Pâques, le torrent du Cédron est à sec. C'est Judas qui conduit les soldats et les gardes jusque-là. Le récit parallèle de Luc précise qu'il marchait devant la foule qui vient pour arrêter Jésus. Une foule dont seul Jean nous donne la nature détaillée, en précisant premièrement qu'il s'agit d'une cohorte, des soldats romains donc, et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, c'est-à-dire les gardes du temple. Dans l'armée romaine, la cohorte représentait un dixième de la légion, d'une légion romaine, c'est-à-dire 600 hommes. Parfois, ce mot était utilisé pour simplement désigner une manipule qui, elle, ne correspond qu'à 200 hommes. Quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de monde pour venir arrêter un seul homme. Il est fort possible que toute la cohorte ou toute la manipule n'ait pas été impliquée dans l'intervention. Ceci dit, ce qu'il faut bien comprendre ici, derrière l'envoi de tous ces soldats, c'est qu'il y avait certainement chez les autorités romaines, chez Pilate donc, la crainte d'un soulèvement, d'une insurrection lors de cette arrestation de Jésus qui avait lieu pendant la fête de Pâques, c'est-à-dire quand il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. D'ailleurs, cette crainte certainement des autorités romaines était aussi la crainte des autorités juives. Regardez ce que Matthieu nous dit au chapitre 26, versets 3 à 5. « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Il faut se souvenir ici aussi de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem quelques jours plus tôt, de la grande popularité de Jésus à ce moment-là. une popularité qui explique certainement, en partie, que l'arrestation va avoir lieu de nuit et non pas au milieu de la foule, non pas au milieu du temple, comme le dit d'ailleurs Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 52 et 53. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens, on est aussi pendant l'arrestation, hein, qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » En plus des soldats romains, il y a les gardes, des gardes qui sont envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et comme nous venons de le lire dans le texte de Luc, il s'agit des gardes du temple. Autorité romaine et autorité juive se sont donc alliées, ont mis leurs forces en commun, se sont entendues pour arrêter Jésus. Symboliquement, dans ce déploiement de forces, on peut voir l'importance de l'opposition des forces des ténèbres. Parce qu'au-delà de l'aspect politique dont nous venons de parler, ce qui est en jeu ici est bien évidemment hautement spirituel. C'est Satan, en partie, qui est à l'œuvre. Satan qui a pris possession de Judas. Souvenez-vous de ce que Jésus dit au début du repas dans la chambre haute et puis à la fin du repas, c'est au début du chapitre 13 de l'évangile de Jean, pendant le repas alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Et puis à la fin du repas, dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. C'est donc guidé par Judas, lui-même guidé par Satan, que les soldats et les gardes viennent arrêter Jésus. Comme le précise Luc, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est leur heure et le pouvoir des ténèbres. L'heure du pouvoir des ténèbres. L'heure la plus sombre pour Jésus, pendant laquelle il accepte de laisser le pouvoir aux ténèbres. L'heure pendant laquelle il accepte que les ténèbres aient une emprise sur lui. L'heure du pouvoir des ténèbres. Et pourquoi est-ce que Jésus permet cela ? Mais parce que c'est pour cela, précisément, qu'il est venu. C'est pour donner sa vie. C'est pour mourir sur la croix que Jésus est venu. Et pour cela, il faut que le pouvoir des ténèbres s'exerce contre lui. Un pouvoir qui commence par un baiser, le baiser de la trahison, le baiser de Judas que seul Jean ne mentionne pas. Si l'arrestation de Jésus est rendue possible par la trahison de Judas, elle est aussi possible, et c'est d'ailleurs complètement paradoxal, parce que Jésus est pleinement maître de son destin, pleinement maître de ce qui va se passer. C'est notre troisième point. Jésus est pleinement maître de son destin. Notons que l'arrestation de Jésus est sans doute la seule dans l'histoire de l'humanité où celui qui est arrêté est celui qui contrôle tout ce qui se passe, comme nous allons le voir maintenant. Et le premier élément qui souligne la totale souveraineté de Jésus dans son arrestation, c'est ce que nous lisons au début du verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Jésus sait parfaitement tout ce qui va se passer. D'ailleurs, il l'a toujours su. D'ailleurs, il est venu pour ce qui va se passer maintenant, dans les prochaines heures. Rien de ce qui va se passer ne va le surprendre. Notons que la perspective de ces choses vient de lui faire passer des heures d'angoisse dans le jardin de Gethsémané, des heures pendant lesquelles son âme était triste jusqu'à la mort, nous dit l'évangile de Matthieu, des heures pendant lesquelles il a sué des grumeaux de sang, nous dit l'évangile de Luc, des heures pendant lesquelles il a lutté dans la prière contre la tentation de tout abandonner, contre la tentation de ne pas boire la coupe de souffrance que son Père lui donne. Une lutte dont il est cependant sorti victorieux. Il obéira à son Père. Il ira jusqu'au bout. Il boira la coupe, comme il le dit à Pierre dans notre texte, à la fin du verset 11. « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Oui, Jésus est pleinement maître de son destin. Il sait ce qui doit arriver et il est prêt pour cela. Il va boire la coupe que le Père lui a donnée. Le deuxième élément qui souligne la souveraineté de Jésus dans son arrestation, c'est ce que nous lisons au verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Si Jésus avait voulu se cacher, si Jésus avait voulu fuir, il ne serait pas venu là, à l'évidence, pas là où Judas pouvait facilement le trouver, pas là où ils étaient venus si souvent. Comme nous l'avons vu dans le sous-point précédent, Jésus savait ce qui allait se passer. Quand Judas a quitté la chambre haute pour aller livrer Jésus, Jésus savait ce qu'il allait faire. Nous le lisons toujours au chapitre 13 de ce même évangile. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite ». Judas prit le morceau et sortit. Il faisait nuit. Jésus sait très bien où Judas va se rendre. Jésus savait et il a refusé de se cacher. Il a refusé de fuir. Au contraire, il s'est rendu exactement là où Judas pouvait le trouver, facilement le trouver. Notons qu'il est possible que Judas se soit d'abord rendu à la chambre haute, ce n'est pas improbable, puis Jésus ne s'y trouvant pas, il s'est ensuite rendu à l'endroit suivant, le plus évident, le jardin de Gethsémané, où Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Oui, Jésus est pleinement maître de son destin. Et loin de se cacher, loin de fuir, il va même jusqu'à faciliter son arrestation en se laissant facilement trouver. Le troisième élément qui souligne la souveraineté de Jésus dans son arrestation, c'est son attitude devant ceux qui sont venus l'arrêter. Et c'est ainsi que nous lisons que Jésus va à leur rencontre. Ah, il les a sans doute entendus arriver, hein, des dizaines, des centaines de personnes qui arrivent, ça fait du bruit avec les armes, les casques, etc. Il les entend arriver et il sort à leur rencontre. Il s'avance vers eux, dit le texte au verset 4. C'est donc Jésus qui prend l'initiative. C'est Jésus qui prend les choses en main. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, c'est lui qui pose les questions. Clairement, Jésus est maître de ce qui est en train de se passer. Il n'agit clairement pas comme un criminel en cavale qui s'est finalement fait prendre. Et c'est ainsi que Jésus demande au verset 4 « Qui cherchez-vous ? » Une question qu'il répète au verset 7. Nous voyons là toute l'assurance de Jésus, pleinement maître des événements qui sont en train de se passer. Et dans ces deux questions de Jésus, beaucoup de commentateurs voient ici Jésus qui agit pour protéger les siens, en effet en attirant l'attention sur lui. Jésus va finalement permettre à ses disciples de partir, comme le souligne le verset 8. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Souvenez-vous dans la parabole du bon berger, Jésus, à un moment donné, parle du mercenaire. Du mercenaire qui n'est pas le berger et qui ne se met pas en souci pour les brebis. Qui ne se met pas en souci pour les brebis quand le loup arrive. Jean 10, versets 11 à 13. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. « Moi, je suis le bon berger, » dit Jésus. Oui, Jésus, lui, n'est pas un mercenaire. Il est le bon berger. Et quand le loup arrive, à l'inverse du mercenaire qui s'enfuit, Jésus s'avance. Jésus s'interpose. Jésus fait face au danger pour protéger les brebis, afin qu'aucune d'elles ne se perde, comme le souligne Jean au verset 9. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Il est fort probable que les gardes et les soldats ne s'attendaient pas du tout à ce que les choses se passent ainsi. Qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus se livre sans aucune résistance. Sinon, pourquoi un tel déploiement de force ? Notons encore que quand Jésus répond « c'est moi », c'est-à-dire que c'est lui, Jésus de Nazareth, qu'il cherche, nous lisons au verset 6 qu'ils reculèrent et tombèrent par terre. Imaginez un peu la scène. Et certains voient ici l'accomplissement de cette parole du psaume 27, verset 2, « Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. » Pour expliquer la chute des soldats et des gardes, il y a certainement quelque chose de l'ordre de l'effet de surprise. Mais il y a aussi sans doute quelque chose de l'ordre de la révélation de la divinité de Jésus. Parce que quand Jésus dit « Je suis », il fait clairement allusion à l'épisode du buisson ardent où Dieu lui-même s'est défini ainsi. Je suis celui qui est, et c'est traduit dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, exactement de cette manière, je suis. Et à chaque fois que dans les évangiles, Jésus déclare je suis, il se fait l'égal de Dieu. Il affirme son statut divin, il affirme l'éternité de son existence. Et cela n'a pas échappé aux Juifs. Et par exemple, au chapitre 8 de ce même évangile de Jean, on a un épisode que je viens de décrire, et les Juifs veulent lapider Jésus après qu'il ait dit « Je suis ». Pourquoi le lapider ? Parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Donc en plus de la possibilité qu'il soit tombé parce qu'il y a quelque chose de la puissance de Dieu, dans cette affirmation « je suis », on peut imaginer que c'est sans doute un effet combiné, l'effet de surprise, l'atmosphère pesante du moment, peut-être qu'ils n'en menaient pas trop large certains de ces soldats, et puis l'affirmation de sa divinité. Oui, dans toute son attitude, lors de son arrestation, nous voyons que Jésus est pleinement maître de son destin. Il reste un quatrième et dernier élément qui souligne la souveraineté de Jésus dans son arrestation, c'est son refus de la violence. Une violence que Pierre veut déclencher quand il dégaine son épée. Soulignons ici que, sans doute, Pierre n'a pas dégainé son épée pour trancher l'oreille de Malchus, du serviteur du souverain sacrificateur. très certainement que Pierre a raté son coup. C'était un pêcheur, hein, c'était pas un soldat, Pierre. Sans doute qu'il visait la tête et qu'il n'a touché heureusement que l'oreille. Mais ce qui est important ici, au-delà de la compréhension du détail, de ces petits détails, ce qui est surtout important ici, c'est que Jésus ne surenchérit pas à la violence de Pierre. « Remets ton épée au fourreau, » dit Jésus. Et puis, à l'encontre de toute logique humaine, nous voyons Jésus qui guérit ce brave ou ce pauvre Malchus, et c'est l'évangile de Luc qui nous le dit. Et là encore, on peut essayer d'imaginer la scène. Lui que l'on traite comme un brigand, que l'on est venu arrêter comme un brigand, qui soigne un de ceux qui sont venus l'arrêter. Il y avait là de quoi faire réfléchir celui qui voulait, un tant soit peu, réfléchir. En tout cas, Jésus refuse clairement la violence. Et Matthieu, dans son évangile, au chapitre 26, rapporte d'autres paroles de Jésus à ce moment-là, les versets 51 et 54 du chapitre 26, donc. « Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Oui, Jésus aurait pu demander de l'aide à son Père. D'un claquement de doigts, il aurait pu se tirer de ce mauvais pas. Mais c'est pour cela qu'il est venu. C'est précisément pour cela qu'il est venu. Sinon, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi, dit Jésus. Notons encore que cette parole de Jésus qui exclut totalement la réponse de la violence, de Jésus qui exclut totalement la réponse de la violence, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus refuse la violence qui aurait pu l'aider à s'enfuir. Il refuse l'usage de la force, même celle des anges du ciel. Pourquoi ? Parce qu'il est maître de son destin. Et son destin passe par son arrestation. Oui, indéniablement, Jésus est souverain dans tous ces événements que nous venons de voir, et dans tous ceux qui vont se produire par la suite. Et tout cela nous rappelle que sa vie, personne ne la lui prend. Sa vie, il la donne. C'est un don, c'est volontaire. Et ça nous ramène encore au chapitre 10, après la parabole du bon berger, où Jésus dit les choses, on ne peut plus clairement, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, c'est la souveraineté, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, Jésus a le pouvoir de donner sa vie, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il a aussi le pouvoir de la reprendre. Et c'est ce qu'il fera par sa résurrection. Il est totalement maître de sa destinée. Et sa mort n'est clairement pas un accident de parcours, comme certains l'ont affirmé. Vous trouvez ça dans plusieurs commentaires. Cette arrestation fait entièrement partie du plan de Dieu, du plan de Dieu pour notre salut, parce que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est pourquoi sur la croix, avant de remettre son esprit dans les mains de son Père, Jésus va pouvoir dire cette parole « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et en effet, tout est accompli par le don de sa vie. Et le don de sa vie passe par cette arrestation. Et ainsi, Jésus va pouvoir mener à bien la mission que le Père lui a confiée, une mission qui va de l'incarnation jusqu'à l'ascension, en passant par son arrestation, sur laquelle il est souverain du début à la fin. Il le fait par obéissance à son Père, et il le fait aussi par amour, pour nous sauver. Je termine. J'aimerais m'arrêter pour terminer sur un prolongement de certaines des choses que nous venons de considérer. Quel prolongement ? Je le formulerai ainsi. Même Jésus a remporté ses victoires par la prière. Même Jésus a remporté ses victoires par la prière. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que tout ce que nous venons de considérer concernant Jésus et sa parfaite maîtrise des événements doit être relié, à mon sens, en particulier au moment qu'il a passé juste avant en prière dans le jardin de Gethsémané. Peut-être pensez-vous, peut-être pensons-nous que lui, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de ça. Il aurait pu s'en affranchir. Il y serait arrivé de toute façon. C'est oublier qu'il était pleinement humain. Et je ne suis pas sûr qu'il y serait arrivé aussi facilement que nous pouvons parfois le penser. En fait, c'est là dans le jardin de Gethsémané, c'est là dans la prière, c'est là dans la communion avec son Père que Jésus a puisé la force d'avancer. Que Jésus a pu résister à la tentation de reculer devant la croix. Que Jésus a accepté par obéissance de boire la coupe de la colère de Dieu. Que Jésus a pleinement pris en main son destin. Et la comparaison au moment de l'arrestation de Jésus entre sa réaction et celle de Pierre corrobore tout à fait ce que nous sommes en train de dire. La différence est flagrante. Et c'est une différence qui trouve en grande partie son explication dans les heures qui ont précédé. Des heures pendant lesquelles Jésus a prié. Et des heures pendant lesquelles Pierre a dormi. Les autres aussi. Ils ont dormi malgré les avertissements de Jésus. Ils n'ont pas su veiller dans la prière avec Jésus. Ils n'ont pas lutté dans la prière avec Jésus. Souvenez-vous de ce que Jésus leur a dit en les trouvant endormis. Matthieu 26, versets 40 à 41. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi ?» Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair est faible. Qui pourrait en douter ? C'est pourquoi il nous faut prendre au sérieux cette parole de Jésus. Si nous voulons marcher par l'esprit et non par la chair, Jésus était pleinement maître de lui-même et de son destin parce qu'il était en communion avec son Père, parce qu'il avait soumis sa volonté à celle de son Père. Et ainsi, il pouvait agir par l'Esprit de Dieu. Pierre, lui, en dégainant son épée, a clairement agi par la chair. Comment aurait-il agi ? Je parle de Pierre. S'il avait passé du temps dans la prière, on ne peut que spéculer, mais il n'est pas insensé de penser qu'il aurait agi autrement. qu'il aurait agi autrement aussi quelques heures après, quand il va renier par trois fois Jésus. Et la question que je me pose donc ici est celle-ci: avons-nous compris l'importance de la prière? L'importance de la prière dans notre relation à Dieu, dans notre marche de la foi? Non pas l'importance de la prière comme un devoir à accomplir, non pas l'importance de la prière comme un acte magique par lequel nous obtenons ce que nous demandons à Dieu, ce n'est pas de cela dont nous parlons. L'importance de la prière comme le moyen d'entrer dans la volonté de Dieu pour notre vie. L'importance de la prière comme le moyen de pouvoir résister aux tentations qui nous surviennent, et en particulier celle d'agir par la chair. L'importance de la prière comme le moyen de marcher par l'esprit et non par la chair. L'importance de la prière comme le moyen d'être victorieux par la foi. Oui, l'esprit est souvent bien disposé. Oui, nous sommes toujours tous pleins de bonnes intentions. Mais en situation de tentation, il nous faut plus que de bonnes intentions. Il nous faut l'aide du Seigneur. Il nous faut la force du Seigneur, et cette force, ce secours, nous le puisons en particulier dans la prière. Agir par la chair, comme Pierre l'a fait, ne fait jamais avancer le royaume de Dieu. Au contraire, c'est souvent une entrave à son bon avancement. Et je me demande, combien d'oreilles ai-je coupé en agissant par la chair? Combien d'oreilles avons-nous coupées en agissant par la chair que le Seigneur a dû ensuite guérir pour rattraper le coup, parce que nous ne sommes pas suffisamment des hommes et des femmes de prière? Je vous laisse avec cette question un peu surprenante peut-être, mais qui résume bien l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur, en tout cas, nous aide chacun à comprendre ces choses, qu'il nous aide chacun à progresser dans notre vie de prière. Ce sera pour sa gloire, ce sera pour l'avancement du règne de Dieu, et ce sera aussi pour notre bien. Amen.